Lizzie présente Je sais que tu sais, de Gilly Macmillan. Lu par Olivier Prémel et Emmanuel de Koenig. Avec la participation de Patrick Descamps, Thierry Janssen, Pierre Lognier, Fabienne Loriot, Claire Tefnin et Maxime Van Zandvoort. À Jules. Le temps est froid et humide. Une pluie horizontale éclabousse les lunettes de Fletcher et lui cingle les joues. Il a d'abord aperçu la fosse depuis l'autoroute. Puis ses contours se sont précisés au fur et à mesure qu'il s'engageait sur la bretelle de sortie. À travers les essuie-glaces qui battaient frénétiquement, il a vu le dos des ouvriers rassemblés. Devant eux, le trou ressemble à une entaille boueuse dans le parking, aux bordures des terres glaises poisseuses d'un orange fade et terne. Fletcher s'est arrêté près de l'entrée de l'hypermarché, au bout d'une rangée de voitures mal garées. Danny n'a ouvert la portière côté passager qu'après avoir resserré au maximum sa capuche autour de son visage, comme une coiffe de petite fille. Dans la fosse, les hommes ont découvert des ossements. Fletcher reste planté à côté, impassible, tandis que les éléments se déchaînent contre lui. Il observe. Il note le goudron noir tout juste coulé dont la surface mouillée luit. L'eau a envahi les moindres creux. Les flaques sont grêlées et ridées. Elles offrent un reflet tremblotant du bâtiment rectangulaire et du ciel qui le surplombe, avec son pâle ray de lumière tapi sous des nuages lourds de pluie. Un des ouvriers essaie d'allumer une cigarette. Son briquet produit des étincelles sans jamais créer de flamme.
« Qu'est-ce qu'ils construisent ?» demande Fletcher.
« Ils agrandissent le magasin, » répond Danny.
« Il n'est pas assez grand comme ça ?»
L'hypermarché est un mastodonte, aussi large qu'un pâté de maison. Le macadam qui le ceint ressemble à des douves noires. Autour, épousant les anciennes courbes du paysage, se déploient des rues bordées de maisons victoriennes. Elles montent le long d'une colline puis se font plus nombreuses dans la cuvette qui se trouve à son sommet. Un parc boisé s'étend le long de l'arête. Un pylône de télécommunication est dissimulé entre les arbres. De l'autre côté de l'hypermarché, dominant l'horizon, Fletcher aperçoit les 6 tours d'habitation qui constituent la cité Glenfrom. Il peine à croire que ces immeubles soient encore debout. Ce sont des antiquités. Danny et lui ont un vécu là-bas. Mais il préfère regarder en avant plutôt qu'en arrière et ne pas s'attarder sur le souvenir. Il n'en parlera pas. Le trou est profond, entre 2 mètres et 2 mètres 50, estime Fletcher, qui se tient au bord et réprime une légère sensation de vertige. Il est perturbé par la vue de l'os, la pointe d'un fémur, devine-t-il à sa taille, mais aussi par la profondeur de la fosse et sa ressemblance avec une tombe. L'excavateur est abandonné non loin. L'énorme bras terminé par le godet vacille au-dessus du sol. Danny échange une poignée de main avec le chef de chantier. Des gouttes de pluie s'accrochent à l'ourlet de sa capuche. « Il faut recouvrir tout ça, » dit-il. L'eau est en train de s'accumuler au fond du trou sur plusieurs centimètres déjà. D'ici peu, elle recouvrira les ossements. Il se tourne vers Fletcher. « Sûrement un nouveau Jules César. »«
Possible. »
Fletcher frissonne. À cause du temps, pas du cadavre. Le froid a fini par le pénétrer au plus profond de son être. Il le sent dans sa chair. Ce n'est pas la première fois qu'il découvre des ossements humains suspects. Dans un cas, il s'agissait d'un tombeau romain. Dans un autre, d'une fosse commune pour les pestiférés. Cette dépouille-ci n'est certainement pas récente. À sa connaissance, cela fait plus de 20 ans que l'hypermarché a été construit et que la terre sous l'épaisse couche de goudron a été creusée.
« C'est peut-être le chaînon manquant, » dit-il à Danny qui laisse échapper un ricanement.
Il n'y a pas grand-chose à faire tant qu'un spécialiste n'aura pas daté les ossements. Déterminer l'étendue du périmètre de sécurité sur le parking est sans doute la seule mesure à accomplir pour l'instant. Fletcher est saisi d'une vague de brûlure d'estomac. Des langues incandescentes de suc gastrique défient les lois de la gravité et le reste de son corps abandonne le combat. Il sort une plaquette d'antiacide de sa poche. Ce n'est pas facile. Le vent manque l'emporter. Il mâchonne 3 comprimés tout en observant avec Danny les hommes en veste jaune fluo qui tendent une bâche. Les cachets ont un goût de craie avec une note de menthe verte. « Je viens de penser à un truc », dit Danny. Il pivote sur ses talons, regarde autour de lui. « Quoi ?» demande Fletcher. Les hommes ont beaucoup de mal à étirer la bâche au-dessus de la fosse. Ses bords claquent avec fureur. Elle se débat comme une prise au bout d'une ligne, tout juste sortie de la mer. Et, avant qu'il n'ait fini de l'installer, un morceau d'argile se détache de la paroi de la fosse et tombe au fond. « C'est pas ici qu'on a retrouvé les garçons ?»«
Attendez !»
s'écrie Fletcher.
« Arrêtez tout !»
La motte de terre glaise a mis au jour d'autres ossements en chutant. Fletcher distingue l'arrondi d'un crâne. Les cavités orbitales sont béantes et l'os frontal paraît enfoncé ou défoncé. Il aperçoit aussi ce qui ressemble à une grande clé anglaise en acier. Il est prêt à parier 50 billets qu'elle a été enterrée avec les ossements. Il lui semble y voir quelque chose collé dessus. Ce n'est certainement pas une relique romaine.
« Tu as vu ?»
Il se tourne vers Danny pour observer sa réaction. Mais Danny est en train de rendre son petit déjeuner à quelques mètres de lui, plié en deux, juste derrière les tribunes. Des herbes hautes dissimulent sa tête et lui chatouillent les oreilles. La chaleur amplifie l'odeur de vomi.
« Il respire encore !»
hurle Fletcher. Il essaie de tirer le lourd rouleau de moquette. Il veut le déplacer sans blesser le gamin plus qu'il ne l'est déjà.
« Danny, viens m'aider, bordel !»
Danny arrive, trébuche, s'essuie la bouche, encore secouée de haut-le-cœur. Et ensemble, ils retirent le tapis qui recouvre le garçon, dont la poitrine se soulève et s'abaisse toujours. Fletcher sue à grosses gouttes dans son costume tout neuf. Son épouse a brossé des peluches invisibles sur ses revers de manches ce matin, avant qu'il ne parte travailler, avec dans les yeux une expression admirative sur sa coupe aussi élégante qu'onéreuse. Pourtant, il n'a pas une seule pensée pour le costume lorsqu'il s'agenouille dans le sang qui macule le sol. Rien ne traverse son esprit en dehors de ce gamin. Il est trop tard pour l'autre. Son corps est inerte, sans souffle. Son visage réduit en bouillie. C'est ce qui a fait vomir Danny. Des dizaines de mètres plus loin, les tribunes du synodrome sont désertes. On est lundi matin, et il y a tout juste assez de visiteurs dans le stade pour remplir quelques tables à la terrasse du bar d'en face. 3 bookmakers sont sur le pied de guerre, en revanche. Il s'installe sous le soleil matinal, leur sacoche noire déjà remplie de billets. Un écriteau annonce que la mise de départ est de 2 livres. Pendant qu'ils attendent l'ambulance, un tracteur fait 2 fois le tour de la piste pour ratisser le sable. Fletcher tient la tête du garçon sur ses genoux et écarte avec précaution les cheveux de son front, sans toucher ses blessures. Il prend une de ses petites mains délicates dans la sienne et lui répète encore et encore que ça va aller maintenant. Ils l'ont trouvé. Il va s'en sortir. Il faut qu'il tienne le coup. Les secours vont arriver. Ça ne va plus tarder. Une barrière en tôle ondulée sépare Fletcher et le gamin de l'arrière des gradins. Il y a des trous dedans, assez grands pour qu'un homme mince puisse s'y faufiler. Les gens ont jeté des détritus derrière. Bouts de métal, meubles cassés, pneus usés, matelas et rouleaux de moquette. Tout cela relégué sur une parcelle de terre battue qui ressemblerait sans ça à un paysage lunaire. Ici et là, Fletcher aperçoit les vestiges d'un ancien revêtement en bitume. Morceaux qui se décollent et mottes noires poisseuses sous la chaleur. Un haut-parleur du synodrome beugle une fanfare de trompette. À travers une ouverture dans la barrière et les gradins, Fletcher a vu sur les hommes en veste bleue qui mènent les chiens sur la piste. Certains portent des casquettes plates malgré la canicule, ou peut-être à cause d'elles, justement. Fletcher s'essuie le front. Un caillot de sang apparaît au coin de la bouche du garçon et coule le long de sa joue. Fletcher les suit aussi.